en dépit d'une chasse à l'homme sans précédent dans tout le pays, le Zodiac n'a jamais été pris et court toujours dans la nature. Il a continué à envoyer des lettres aux journaux locaux et régionaux pendant près de 10 ans, narguant les autorités et les menaçant des pires violences. Bien qu'il ait dit avoir mis de la colle sur ses doigts pour masquer son identité, les techniques modernes, y compris les analyses ADN, n'ont toujours pas permis d'identifier un suspect dans cette affaire. Par la suite, le Zodiac s'est vanté d'avoir tué 37 personnes, bien que ce n'ait jamais été confirmé officiellement. Le 24 avril 1978, le San Francisco Chronicle a encore reçu une lettre finissant par ces mots. « J'attends qu'on fasse un film sur moi. Qui va jouer mon rôle ? Maintenant, je maîtrise complètement la situation. »
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
First the enemy, then the woman.
That's the savage's idea everywhere.
It is the natural instinct. What is woman? Even such a woman as this, until the blood is quickened by the kill. One passion builds upon another. Kill, then love. When you have known that, you will have known ecstasy.
La proie la plus dangereuse.
Quoi ? La proie ?
Ils en ont fait un film. C'est un conte qui chasse des humains pour s'amuser. Des humains. La proie la plus dangereuse.
Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le ?
Et ça, c'est le comte Zaroff.
Selon la scientifique, ces traces de pas ont été laissées par un modèle de bottes militaires.
Laissez-moi deviner. C'est du 44 ?
Comme les empreintes trouvées au lac Berryessa en 69.
Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a affaire au véritable Zodiac ?
Le mode opératoire est étonnamment similaire, si ce n'est pas lui, alors... C'est l'œuvre de son jumeau maléfique.
D'une personne qui l'a étudié minutieusement.
On a reçu des lettres ou des messages codés ?
Le Zodiac. Ce gars-là, il prétend qu'il a fait 37 victimes. Mais la police n'en a confirmé que 5.
Oh merde.
Ouais, il a nargué la police en envoyant des lettres contenant des messages codés qu'on n'a jamais pu déchiffrer. Même le FBI s'y a cassé les dents.
Bonjour. Bonsoir. Vous écoutez Nuit Blanche, le podcast. Nuit Blanche, une histoire vraie. Vraiment bizarre, tous les soirs de pleine lune. La pleine lune, ce moment si particulier sur le calendrier, où l'on constate une soudaine recrudescence d'actes violents, de pulsions incontrôlées. Un inspecteur de la baie de San Francisco confirme les faits. Il s'appelle Dave Toshi. Pendant toutes ces années passées à la brigade des homicides, crimes sexuels, coups et blessures, mon téléphone restait relativement silencieux les nuits sans lune. Par contre, les nuits claires, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le central appelait chez moi pour signaler des blessures à l'arme blanche, des violences conjugales et parfois même des meurtres.
Vous savez, arrêtez de parler.
Des meurtres que le policier n'a jamais oubliés. Ceux portant la signature du Zodiac, un serial killer mystérieux, insaisissable, narcissique, sadique, que Dave Toshi va traquer jour et nuit pendant 14 années.
Tu sais, même si personne n'a encore prononcé le mot serial killer à voix haute, ça ne devrait plus tarder. Et quand ça arrivera, ce sera ma première grosse affaire. Tu vois, ça pourrait faire ma carrière.
Le tueur du Zodiac, c'est la plus grande affaire criminelle du XXe siècle aux États-Unis. 5000 personnes interrogées, 2500 suspects, 3000 lettres de dénonciation, 10 000 éléments de dossier, l'homme va traumatiser dans les années 60 et 70 la population, mais aussi déchaîner les passions avec des appels anonymes, des messages codés et cette envie irrépressible de tuer.
Alors écoutez-moi bien, j'ai changé d'avis. Je vais la laisser crever dans son trou. Et je tenais à ce que vous le sachiez.
Un inconnu conduisant une voiture blanche, un couteau et un pistolet à ses côtés, c'est l'énigme du tueur du Zodiac. Une histoire mystérieuse, sanglante, effrayante et inachevée que nous allons à présent vous raconter. Exceptionnellement, en deux parties, la première aujourd'hui et la seconde lors de la pleine lune du mois de février.
Certains soldats ne vivent que pour l'action, d'autres sont terrifiés, et puis il y a les soldats qui tuent de sang-froid. Quand t'en vois un comme ça tuer un homme, et qu'ensuite tu croises son regard, tu vois qu'il est tranquille, détendu, et qu'il semble presque satisfait. Là, tu sais que t'es en présence d'un vrai tueur.
Vendredi 20 décembre 1968, Benicia, une petite ville située au nord de la région de la baie de San Francisco. Betty Lou Jensen se prépare pour ce qui sera officiellement son tout premier rendez-vous. Elle enfile sa plus jolie tenue, une mini-robe mauve avec un col Claudine et des poignets blancs. Le summum du chic pour une demoiselle de 1968. Elle a 16 ans. Betty Lou est une jolie fille, brune, les yeux clairs, un petit nez retroussé et des joues encore rondes. Les parents de Betty Lou sont très conservateurs. Ça n'a pas été facile de leur faire accepter cette sortie, mais ils ont fini par céder devant le CV irréprochable de son prétendant. À 17 ans, David Faraday est l'archétype du jeune homme bien sous tout rapport. Yeux marrons, cheveux bruns bien peignés avec une ressage sur le côté, le regard franc et le sourire sincère. C'est un boy scout au sens littéral. Il est membre des God and Eagle Scouts of America. Et il fait partie de l'équipe de lutte de son lycée. Le gendre parfait. Pour David aussi, la soirée a quelque chose de particulier. Il a confié à quelques proches amis son intention d'offrir son anneau, celui qui symbolise la fin de ses études, à Betty Lou. En 1968, c'est un signe d'engagement on ne peut plus sérieux, et David a le trac. Pour ce rendez-vous, le jeune homme a emprunté la voiture de ses parents. En début de soirée, une Rambler couleur crème de 1961 s'arrête devant le domicile des Jensen. Sans se faire prier, il énonce aux parents de Betty Lou le programme de leur soirée. Ils vont d'abord se rendre avec d'autres jeunes chez leur amie Sharon. Puis, ils assisteront à un concert de Noël au lycée de Benicia. Ils seront de retour pour 23h, heure du couvre-feu établi par les parents de sa copine. Au cours de la soirée, pourtant, les deux jeunes s'écartent de leur plan. Ils passent bel et bien un moment chez Sharon et ils quittent le domicile de leur amie vers 21h, avec l'intention de se rendre au concert. Mais ils n'y assisteront jamais. On perd leur trace jusqu'à environ 22h15, heure à laquelle David Faraday gare le break couleur crème le long de Lake Herman Road. Lake Herman Road est un ruban de bitume d'une dizaine de kilomètres qui relie les villes de Vallejo et de Venecia, en passant par Benicia. C'est une route de campagne bordée de fermes éparses et de quelques rares maisons. L'éclairage y est inexistant et la nuit, il y fait plus sombre que sous le casque de Darth Vader. David s'est garé dans un virage. À cet endroit, un chemin de terre quitte l'axe principal en direction de la station de pompage de Venecia et le jeune homme stationne juste devant le portail qui en restreint l'accès. C'est un endroit incongru pour un rendez-vous amoureux. En 1968, il est certes fréquent que des jeunes gens se retrouvent là pour flirter, pour fumer de l'herbe ou s'adonner à de petits trafics. Mais la route est relativement passante et le paysage pas particulièrement romantique. En tout cas, il l'est moins que les rives du lac Herman qui se trouvent à peine à 500 mètres de là. Il fait très froid en cette nuit du 20 décembre. Alors pendant que les amoureux discutent, assis dans la voiture, le jeune homme laisse le moteur tourner pour profiter du chauffage.
Je peux te poser une question ?
Ouais, vas-y.
Est-ce que tu sais que la distance qu'il y a entre ici et là est exactement la même qu'il y a entre là et ici ?
Non, je ne savais pas.
Oh, bah maintenant tu le sais.
Ouais, toi, je te vois venir.
Aux alentours de 23h, un couple marié qui conduit le long de Lake Herman Road aperçoit les deux jeunes en train de discuter dans la voiture. Pareil pour deux chasseurs de ratons laveurs, bredouilles, qui rejoignent leur pick-up garé à quelques dizaines de mètres de la voiture de David. À 23h14, James Owen est en route pour prendre son service de nuit dans la raffinerie Humble Oil. Il passe, lui aussi, à proximité de la Rambler blanc-crème. Il remarque alors un second véhicule, de couleur sombre, garé sur la droite de la voiture du jeune couple.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'en sais rien.
Alors, calme-toi.
Quelques minutes plus tard, à 23h20, Stella Borges et sa mère roulent elles aussi sur Lake Herman Road. Au moment d'aborder le virage où stationne le jeune couple, les deux femmes assistent à un horrible spectacle. Dans la lumière des phares, elles voient Betty Lou Jensen couchée sur le flanc, au bord de la route. Près de la voiture, David est lui aussi étendu sur le sol. Aucun des deux jeunes ne bouge. Le second véhicule a disparu. Stella Borges enfonce l'accélérateur et conduit le plus vite possible jusqu'à Venezia. Elle a de la chance, elle repère une voiture de patrouille en moins de 5 minutes. Elle fait signe aux policiers de la suivre. À 23h28, les agents et les témoins sont de retour sur le lieu de ce qui s'avérera être un double meurtre.
Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Reculez, s'il vous plaît. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. Non, plus tard. Vous soupçonnez quelqu'un ? Je vous en prie, laissez-nous travailler.
Les officiers de police font les premières constatations. Il trouve Betty Lou Jensen face contre terre, baignant dans une mare de son propre sang. De toute évidence, elle est morte. Elle a été abattue de 5 balles dans le dos. Les deux policiers examinent ensuite le corps de David et réalisent qu'il respire encore. Ils utilisent leur radio pour appeler les secours et une ambulance est rapidement dépêchée sur les lieux.
Sir, can you hear me at all?
David est transféré à l'hôpital de Valero. Hélas, il est déclaré mort à son arrivée. Dans sa main droite, les infirmiers trouvent, serrée entre ses doigts, la bague qu'il voulait offrir à Betty Lou.
L'agresseur a garé sa voiture à environ 4 mètres derrière celle-ci, côté passager. Ensuite, il est venu du côté du conducteur et il a tiré plusieurs coups. Et la fille, elle s'est enfuie par la portière. Le jeune homme a essayé aussi de sortir par là. L'agresseur est passé devant la voiture, l'a rejoint et lui a tiré dans la tête à bout portant. Ensuite, il s'est retourné, a tiré 6 coups sur la fille. 5 des balles l'ont touché dans le dos, presque au même endroit.
Plusieurs douilles sont retrouvées sur le lieu du crime. Les balles utilisées sont des Winchester Western Super X long rifle, calibre 22. Les examens balistiques révéleront que l'agresseur a tiré une balle à travers le toit de la voiture des amoureux, sans doute pour les forcer à sortir tous les deux par le côté passager. Betty Lou s'est vraisemblablement mise à courir. Elle essayait peut-être d'atteindre le bosquet d'arbres qui borde la route, dans l'espoir de s'y abriter. Son corps est retrouvé à 9 mètres à l'arrière de la Rambler. Quant à David, il a été abattu quasiment à bout portant, d'une balle logée juste derrière son oreille gauche. Les deux jeunes n'ont pas été sexuellement agressés et rien ne leur a été volé. Le lieu du crime se situe dans la juridiction du bureau du shérif du comté de Solano. Et ce sont finalement l'officier Russ Butterback et le sergent Les Lundblad qui reprennent l'enquête.
Si elle avait couru, on n'aurait pas ce tir groupé. L'agresseur a dû tirer un coup en l'air pour arrêter sa fuite.
Pour arriver à placer 5 balles sur 5 dans le noir, et à cette distance, il faut le faire.
Ou ce gars a eu de la chance, ou alors il s'est manié une arme.
Pendant les jours et les semaines qui suivent, les forces de l'ordre interrogent tous les témoins à leur disposition. Ils examinent, en particulier, les histoires des chasseurs de ratons laveurs et de l'employé de la raffinerie, tous propriétaires de carabines. « Ils font des comparaisons balistiques, mais elles ne donnent rien. Ils suivent aussi la piste d'une Impala blanche, aperçue par plusieurs témoins une heure plus tôt sur le lieu du crime, mais là encore, ça ne donne rien. Finalement, les mois passent. Betty Lou Jensen a été enterrée au cimetière Skyview Memorial de Valero. Les cendres de David Faraday ont été dispersées par sa famille. Après l'horrible double meurtre de ces deux jeunes gens apparemment sans histoire, la petite ville de Benicia panse ses blessures et tente de retrouver une vie normale.
Il est primordial qu'on réussisse à attraper ce salaud et à l'attraper vite. Il y a des années qu'on n'a pas vu un crime pareil dans ce coin. Et ces vautours ne nous lâcheront pas tant qu'on n'aura pas mis quelqu'un en tôle. Alors voilà. Tu vas me prendre en main tout ça. Je compte sur toi. Trouve ce type. D'accord ?
Oui, monsieur.
Vendredi 4 juillet 1969, 16h. Darlene Ferrin appelle Mike Majot pour lui donner rendez-vous à 19h30. Darlene a comme une envie d'aller au cinéma avec lui. La jeune mère habite avec son second mari et leur petite fille au 560 Wallace Street à Valero, une petite ville de Californie située au nord-est de San Francisco, dans la baie de San Pablo. Darlene est une femme de 22 ans d'1m65, aux joues bien rebondies. Elle a les cheveux d'un blond vénitien et les yeux clairs. Elle travaille au restaurant chez Terry, qui se trouve sur Magazine Street. Et quand elle ne travaille pas, comme c'est le cas en cette journée de fête nationale, elle aime sortir, s'amuser, rencontrer des gens et, si possible, des garçons séduisants. En ce début de soirée, Darlene et sa jeune sœur Christina se dirigent vers Mare Island pour participer aux festivités du 4 juillet. Vers 22h, Darlene est de retour chez elle et elle est accueillie par sa nouvelle babysitter, Janet Lynn, qui s'est occupée de la petite Dina en son absence. Elle passe le reste de la soirée avec Janet et son amie Pamela venue lui tenir compagnie. Puis elle se rappelle, un peu tardivement, de son rendez-vous avec Mike. Elle trouve rapidement un faux prétexte pour s'éclipser de la maison et part rejoindre le beau Mike. Apercevant par sa fenêtre donnant sur Beechwood Street la corvette brune de Darlene s'arrêter, Mike sort précipitamment de chez lui et s'installe côté passager. Michael Renaud Majot, pour être exact, est un jeune homme de 19 ans et Darlene ne le laisse pas indifférent.
Mais où t'étais passé? Ça fait des heures que je t'attends.
Monte, faut que j'aille acheter des feux d'artifice.
Bon, mais tu me laisses conduire.
Oh, grimpe, j'ai pas mangé depuis 24 heures. Tu viens ou tu viens pas?
Pour faire l'intéressant, il avait d'ailleurs raconté à la jeune serveuse qu'il était recherché pour meurtre du côté de Chicago. Grand, mince, les yeux verts, Mike a un frère jumeau, David, avec qui il se chamaille régulièrement au sujet de Darlene qu'ils ont rencontré ensemble chez Terry. Ce soir-là, très clairement, les choses semblent tourner à l'avantage de Mike et il a de la peine à dissimuler sa joie. La corvette sort à présent de la ville et file vers le golfe de Blue Rock Springs. À cette heure avancée de la nuit, le parking du golfe est le spot préféré des amoureux de la région. Il est parsemé de grands saules pleureurs, ce qui permet d'avoir une certaine intimité vis-à-vis de la route toute proche.
Il y a trop de monde.
Je croyais que tu mourrais de faim.
On se trouve un petit coin tranquille.
Si tu veux.
Les phares de la voiture de Darlene éclairent une aire de stationnement complètement vide. Les autres sont sûrement au feu d'artifice ou à une fête en centre-ville. Darlene coupe le moteur, fait un sourire à Mike et met la radio.
Qu'est-ce qu'on fait ?
On reste là, on écoute de la musique, on parle.
T'as l'air bizarre ce soir, t'es sûre que ça va ?
Oui, tout va très bien. On est en juillet, combien de t-shirts t'as mis ?
J'ai froid.
Tu as froid le 4 juillet ?
Peu de temps après, une seconde voiture prend la direction du parking. Le jeune homme, en tournant la tête, croit reconnaître une Falcon 58, ou peut-être modèle 59. La voiture se gare à 8 mètres de distance. La tension est palpable dans l'habitacle, car à 3 km à peine de ce parking, Betty Lou Jensen et David Faraday ont été retrouvés morts 7 mois auparavant.
Déjà au drive-in. Cette voiture était au Mister Head.
Tout à coup, la voiture blanche démarre et quitte le parking pour prendre la direction de Valero. Après cette interruption, aussi inattendue que désagréable, la discussion reprend tranquillement entre le passager et sa conductrice. S'installe progressivement entre les jeunes gens un jeu de séduction à nouveau interrompu par un puissant flash de lumière. Ce n'est pas un feu d'artifice, mais la voiture blanche qui est de retour. Cette fois-ci, elle se gare, phare allumé, juste derrière la Corvette.
On s'en va. Tout de suite.
Darlene et Mike pensent avoir affaire à un policier lorsque l'on braque dans leur direction une puissante torche électrique. Un homme s'avance, sans se presser jusqu'à la portière côté passager. Son pas est lourd sur le gravier.
Sortez papier.
Lorsqu'il arrive à la hauteur de la vitre baissée, un coup de feu déchire le silence de la nuit.
On peut dire que vous nous avez fichu la trouille.
Puis un autre, et encore un autre. L'inconnu vide sans prononcer un seul mot son chargeur sur les deux occupants du véhicule. Tout va très vite. En l'espace de quelques secondes, Darlene reçoit deux balles dans le bras droit. Elle hurle de douleur, quand tout à coup ce sont deux autres qui pénètrent dans sa jambe gauche. Puis cinq autres au niveau des côtes. Les poumons sont perforés, la jeune femme s'écroule sur le volant. L'habitacle est maculé de sang. Par miracle, Mike n'est pas mort, mais grièvement blessé. Il a vu l'espace d'un court instant, et malgré la lumière aveuglante de la lampe torche, son agresseur. C'est un homme aux cheveux châtains. Il n'a pas de lunettes, mais une grosse tête et une carrure impressionnante. Sans dire un mot, l'agresseur retourne d'un pas lent à sa voiture. Mike a une chance incroyable, mais dans la panique, il va commettre une grave erreur. Celle de ne pas faire pendant quelques secondes le mort. Mike bouge, Mike gémit, puis aperçoit dans le rétroviseur la silhouette épaisse de cet homme d'au moins 90 kilos, faire demi-tour et revenir à sa hauteur. Mike n'a plus rien à perdre. Il hurle de toutes ses forces, puis tente de trouver refuge sur la banquette arrière de la voiture. Deux nouvelles balles traversent son corps, qui en état de choc devient incontrôlable. Puis, le canon se dirige à nouveau sur Darlene. Elle est atteinte par deux autres balles. Mais cette fois-ci, rien ne se passe. Pas de réaction, pas de cri. Peut-être est-elle déjà morte. La voiture blanche démarre en trombe sur le parking du golf de Blue Rock Springs lorsque Mike tombe sur le sol. Il a réussi à réunir ses dernières forces pour s'extraire de la voiture. Une balle s'est logée dans son bras droit, une autre dans sa jambe gauche. Mais surtout, une balle vient de traverser ses deux joues, mais aussi sa langue et sa mâchoire. Il est incapable d'appeler à l'aide, plus aucun son ne sort de sa bouche. Ce qui sort à sa place, c'est du sang en abondante quantité qui se répand rapidement sur le macadam. Des bras, Roger et Jerry étaient ce 4 juillet 1969 au feu d'artifice de Valero. Leur voiture avance à présent à une allure modérée sur Columbus Parkway. Roger tente en fait de retrouver un ami qu'ils ont perdu en route. En passant à la hauteur du parking, ils aperçoivent un véhicule qu'ils pensent être celui de leur camarade. Ils se rapprochent de la Corvette lorsque les phares jaunes de leur voiture éclairent une scène aussi choquante qu'insoutenable. Du sang, un homme à terre. Les trois jeunes gens font rapidement demi-tour pour se rendre chez les parents de Jerry et appeler la police. C'est Nancy Slover, la standardiste du commissariat central, qui décroche. Elle lance rapidement un appel radio, intercepté par le sergent John Lynch et son coéquipier, le sergent Ed Rust, qui se trouve sur Tennessee Street. Mais aussi par l'agent Richard Hoffman et le sergent Conway, qui arrivent rapidement sur les lieux, toutes sirènes hurlantes. Lynch contacte le Kaiser Hospital et demande une ambulance. Rust reconnaît tout de suite la conductrice qu'il avait déjà vue à plusieurs reprises derrière le comptoir de chez Terry. Elle est encore vivante, mais elle est incapable de répondre aux questions du policier. C'est à peine si elle arrive à prononcer un « je ». Lorsque l'ambulance arrive, son pouls est déjà extrêmement faible. Darlene Elizabeth Ferrin, née le 17 mars 1947 à Los Angeles, est décédée à son arrivée à l'hôpital, à minuit 38 très exactement. Elle n'avait que 22 ans. Deux minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau au commissariat central de Valero. Nancy Slover décroche. Un homme lui annonce calmement au bout du fil qu'un double meurtre vient d'avoir lieu au terrain de golf sur Columbus Parkway.
Police de Valero.
Je veux signaler un double meurtre.
Pouvez-vous me donner votre...
Si vous faites 2 km vers l'est sur Columbus Parkway, dans le parc, vous trouverez des jeunes dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm. J'ai aussi tué des jeunes de l'an dernier. Bye, bye.
Hélas, cet appel n'a pas pu être enregistré par la jeune policière de 26 ans qui ne disposait pas du matériel nécessaire. Il n'aura fallu que 7 minutes à la compagnie de téléphone pour localiser l'appel qui provient d'une cabine publique qui se trouve juste en face du bureau du shérif de Valero. Hélas, lorsque la police arrive sur place, la cabine est vide.
Je vous surveille. Pas tout le temps, mais vous saurez jamais où et quand.
Le téléphone va à nouveau sonner un peu plus tard dans la soirée, chez Dean et Darlene. Il est 1h30 du matin. Au bout du fil, une personne respire, mais ne dit rien. Quelques minutes plus tard, ce sont les parents de Dean qui sont réveillés. Le téléphone sonne chez Arthur et Mildred Ferrin. On décroche, mais il n'y a personne au bout du fil. En tout cas, personne qui ne souhaite s'exprimer. Pendant que la police fait venir 3 camions de pompiers pour éclairer la scène de crime sur le parking de Blue Rock Springs, le téléphone sonne cette fois-ci chez le frère de Dean. L'interlocuteur, là aussi, reste muet. À 7 heures de la nuit, la radio, la presse, n'est pas encore au courant de la tragédie. Ce qui veut dire que le tireur fou savait qui étaient les deux personnes dans la Corvette de couleur brune. Ou tout du moins une personne, car ces 3 appels ont été passés à des personnes nommées Ferrin. Personne, ce soir-là, n'a cherché à joindre la mère de Darlene, qui vivait également dans la région. Interrogé, bien des années plus tard, par Tom Voigt du site zodiackiller.com, le jeune frère de Darlene, Leo Suenen, a admis qu'il était l'auteur des appels passés pendant la nuit où sa sœur a été assassinée. Selon ses dires, Darlene était censée lui apporter un sachet de marijuana. Mais elle n'est jamais venue au rendez-vous. Impatient, Léo a passé quelques coups de fil pour tenter de la retrouver. Il n'a pas parlé lorsque les beaux-parents de Darlene ont répondu parce qu'ils savaient qu'il appelait très tard, en soirée. À l'époque, la police ne s'intéresse pas à ses coups de fil, ni à Léo d'ailleurs, mais plutôt à Dean Ferrin, qui est rapidement considéré comme le premier suspect concernant l'assassinat de sa femme. Les inspecteurs le questionnent avec son patron qui tient le restaurant Le Caesars, car ils étaient ensemble pendant la soirée du 4 juillet. Très rapidement, Dean est innocenté, tout comme le premier mari de Darlene, un certain Jim Phillips Crabtree qui vit du côté de Santa Cruz.
Elle avait toujours des tas de petits amis, mais rien de sérieux.
Il était au courant. Il acceptait ça?
Bien sûr. Il n'y voyait pas d'inconvénient et souvent elle ramenait des types pour lui présenter. Elle disait qu'elle ne voulait rien cacher à personne.
Je sais qu'on vous l'a déjà demandé, mais réfléchissez bien. Vous êtes sûre de ne connaître personne qui aurait pu lui en vouloir?
Non. Sinon, elle m'en aurait parlé.
Samedi 5 juillet 1969. Aux premières lueurs du jour, la police, toujours sur le terrain de golf, trouve 9 cartouches de 9 mm ainsi que cette balle en cuivre.
Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous le connaissez? Vous pourriez le décrire? Comment étaient ses cheveux, ses vêtements?
Il était brun, cheveux courts, des vêtements sombres.
Quelle était la marque de sa voiture? De quelle couleur?
Je crois que C'était une corvère.
De son côté, Mike Majot est sur une table d'opération. On panse ses blessures, on retire les balles de son corps. À peine réveillé dans sa chambre d'hôpital, il est assailli de questions par les enquêteurs. Le récit de Mike est incomplet et il sera étrangement, ou pas, variable. D'après l'auteur et enquêteur Robert Gray Smith, Mike aurait confié à une connaissance que Darlene avait eu une dispute avec un homme la nuit du meurtre. Il ajoute qu'il se savait suivi ce soir-là. Il aurait plus tard confié à Pam, la sœur de Darlene. Lorsque le type s'est approché pour tirer, il a appelé Darlene par son surnom, dit que seul un cercle d'intimes connaissait. Voilà une déclaration intrigante, car dans une interview publiée dans le Valero Times Herald, quelques jours plus tard, Mike va affirmer au journaliste Dave Peterson « Le tireur n'a prononcé aucun mot, à aucun moment. » Ces aveux, à géométrie variable, vont semer le doute dans l'entourage du jeune homme et amplifier la rancœur, voire la colère que Pam a vis-à-vis de Mike. Elle est convaincue que Mike connaît l'identité du tueur de sa sœur.
Jeunes amoureux en moins d'un an. Le couple a été attaqué avec une rare sauvagerie et on déplore malheureusement la mort de la jeune fille.
Rapidement, le survivant se cache pour éviter les regards pesants de la foule et échapper aux questions oppressantes des journalistes. Il se teint les cheveux et déménage dans un petit studio dont les rideaux sont toujours tirés pour être à l'abri des regards indiscrets. Dean Ferrin s'est remarié avec une femme prénommée Cathy. Pam Huckabee reçoit chaque année des appels anonymes et des lettres menaçantes à la date anniversaire de la mort de sa sœur Darlene. Des inconnus ont même dessiné le signe du zodiaque au feutre bleu sur sa porte d'entrée. On peut la voir dans un épisode du show télévisé américain « Now It Can Be Told » diffusé au début des années 90. Face à Mike Majot, elle dit sur un ton menaçant « Je sais que vous savez qui l'a fait ».
Now it can be told tells all.
Pam Huckabee approached a man she hadn't seen in more than two decades.
Hi, Mike.
Hi.
Do you remember me?
Not at all.
Come here. I'm Darlene's sister, Pam.
Oh, hi, Pam.
I'd like to talk to you.
No, Mike. There was a man that Darlene was very afraid of. That hung around Darlene. That I got to meet. That I got to see around her. And I believe you know who he is. Do you?
Yeah, I know, well, that's been so long ago. I don't remember a lot of his names.
You know. It took me all this time to find you. And I want you to help me, and I know you can. And you can't tell me you can't. You can't tell me you can't, Mike. I know you know who did it. I know you do.
Mike Renaud Majot a par la suite connu la dépression, l'alcool et les drogues. Il est toujours vivant. Il a eu 71 ans le 29 octobre 2020. Darlene Ferrin a été incinérée. Ses restes sont déposés au Sunrise Memorial Cemetery de Valero. Une plaque est toujours visible. Il est écrit « Dee Ferrin, 1947-1969 ». 1969, une année qui s'annonce compliquée pour la police de Valero. Comme pour le double meurtre du lac Herman, on ne trouve aucune trace de vol ou de viol et l'assassin reste introuvable.
Il faut que vous voyiez ceci.
Allez chercher l'éditeur.
À la fin du mois de juillet, la plupart des suspects dans l'attaque sur Darlene Ferrin et Mike Majot ont été entendus par la police, sans que ces interrogatoires ne permettent d'avancer. Toutes les pistes suivies se sont révélées être des cul-de-sac. Les investigations dans cette affaire sont au point mort, tout comme celles dans l'affaire du double meurtre de Lake Herman Road de décembre 1968. Ces deux dossiers vont pourtant soudain revenir sur le devant de la scène.
Moi, tu vois, je suis convaincu que c'est un copain de la fille.
Rien ne dit que c'est un petit ami ou le mari. Ça peut être n'importe qui, c'est pas passionnel. Il a pas tué sous le coup de la colère. Non, il leur a tiré dessus parce qu'ils étaient là au mauvais moment et au mauvais endroit.
Le 31 juillet 1969, quelqu'un à San Francisco jette trois enveloppes dans une boîte aux lettres. Elles sont adressées à trois des plus grands quotidiens de la région, le Valero Times Herald, le San Francisco Examiner et le San Francisco Chronicle. Détail intrigant, les enveloppes sont affranchies avec plus de timbres que nécessaire et elles portent la mention « Please rush to editor » à portée d'urgence au rédacteur en chef.
Je vais les mettre sur mon bureau.
Allume la lumière.
À l'intérieur, une lettre adressée à chacun des quotidiens. Elle est rédigée à la main, au stylo bille bleu, dans une écriture script grossière. Les lignes du texte penchent vers la droite. Les lettres sont tracées avec peu de soin. La ponctuation est quasiment absente et le texte est troué d'espaces placés au mauvais endroit. Le message n'est pas signé, mais sous le texte figure un symbole, une croix entourée d'un cercle. L'ensemble pourrait évoquer une cible. Voici le texte de la lettre reçue par le San Francisco Chronicle.
Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des deux adolescents de Noël dernier au lac Herman et de la fille du 4 juillet près du terrain de golf de Valero. Pour prouver que je les ai tués, je vous fournirai des éléments que seuls moi et la police connaissons. Noël, nom de marque des munitions Super X. 10 coups ont été tirés. Le garçon était sur le dos avec les pieds vers la voiture.
La fille était sur le côté droit, les pieds vers l'ouest. 4 juillet. 1. La fille portait un pantalon imprimé. Le garçon avait aussi reçu une balle dans le genou, nom de la marque des munitions Western. Voici une partie d'un cryptogramme. Les deux autres parties de ce cryptogramme sont envoyées au rédacteur en chef du Valero Times et du San Francisco Examiner. Je veux que vous publiez ce cryptogramme à la une de votre journal. Dans ce cryptogramme se trouve mon identité. Si vous ne le publiez pas d'ici l'après-midi du vendredi, VAN 1er août 69, je me lancerai dans une tuerie de masse vendredi soir. Je me promènerai en voiture tout le week-end, tuant des gens seuls dans la nuit, puis repartant pour tuer à nouveau jusqu'à ce que j'en arrive à une douzaine de personnes sur le week-end.
C'est moi ou ça ressemble à la visée d'une arme ?
Exiger une action de la part de quelqu'un sous la menace, ça porte un nom. Ça s'appelle de l'extorsion. Après la réception de cette première missive, le Valero Times Herald portera plainte. C'est le seul des trois journaux à le faire. Par la suite, et à la différence des deux autres, il ne recevra plus jamais aucune autre lettre de ce mystérieux correspondant.
Nous sommes le 1er août. Il veut son code dans l'édition de l'après-midi.
Si l'examineur n'a pas les couilles de le sortir, on a un scoop sur toute la baie.
Ce type parle de tirer sur une douzaine de personnes.
Et si on ne le sort pas, il le fera peut-être.
Mais revenons-en au 1er août 1969. Chacune des trois lettres reçues par les trois rédactions est bel et bien accompagnée d'un message codé. Sur un rectangle de papier, des caractères sont alignés côte à côte, sans agencement particulier ni espace. Certains caractères sont simplement des lettres de l'alphabet, parfois tracées à l'envers, parfois provenant d'alphabets étrangers. Il y a aussi des symboles géométriques, des triangles, des ronds et des carrés, et d'autres symboles plus difficiles à qualifier.
Et sur le message codé ?
Eh bien, on se trouve devant un cryptogramme très élaboré, oui, qui ressemble fort à celui que les renseignements utilisaient pendant la Seconde Guerre en Corée. Il est écrit en trois parties. Une fois mises ensemble, elles forment un message, mais ça risque d'être long avant qu'on le déchiffre.
En tout, 408 symboles répartis en trois parties. En anglais, message codé se dit « cipher ». Ce message sera désormais désigné sous le nom de « 408 cipher » ou Z408.
Si on le publie, on risque d'établir un précédent très dangereux.
Oh, je t'en prie, ça vaut la peine d'être publié.
Mais offrir une tribune à un salaud détraqué, quel message ça envoie aux
gens ? Une minute. Cette histoire de Valero, c'est vrai, c'est certain ?
L'auteur des lettres exige qu'on publie son code à la une, ce qui plonge les rédactions des trois journaux dans une position des plus délicates. Si ce message est un canular, le publier ne ferait qu'encourager un mystificateur en mal d'attention, à plus forte raison si on lui offre la une. Mais si le message est authentique, sa parution dans un journal à gros tirage pourrait aider à faire avancer l'enquête de la police. Après tout, l'auteur prétend que le document recèle son identité. Et aucun des trois rédacteurs en chef ne veut être tenu pour responsable d'une tuerie de masse au cas où le maître chanteur mettrait sa menace à exécution.
Tout ce qu'il indique dans les lettres correspond. Times Herald va publier.
L'examineur aussi, mais sûrement pas à la une. Je dis qu'on devrait publier à la une. S'il tue 12 personnes, ça sera pas notre faute.
Finalement, chacun des trois journaux publie le morceau de message codé en sa possession, mais pas en première page. Le Valero Times Herald est le premier à réagir, publiant sa partie du code dès le 1er août, dans son édition du soir. Il est le seul journal à satisfaire aux exigences en termes de délai mentionnées dans la lettre. Le San Francisco Chronicle publie sa partie de code le lendemain, dans son édition du samedi 2 août 1969. Finalement, le San Francisco Examiner publie la sienne le dimanche 3, reprenant au passage les deux autres parties précédemment dévoilées par ses confrères.
Tout le monde m'écoute. Le cryptogramme est séparé en trois sections, chacune comportant 8 lignes et 17 symboles.
Pas d'espace entre les symboles indiquant la séparation des mots, pas de chiffres ou de clés de substitution.
Les symboles proviennent de 17 sources différentes au moins. Morse, grec, sémaphore à deux bras, symbole météo, signe astrologique.
Immédiatement, plusieurs agences gouvernementales se mettent au travail pour tenter de déchiffrer le code du supposé assassin, parmi lesquels le service de renseignement de la marine et le FBI. Mais ce sont des civils qui, les premiers, vont craquer le code.
Il ne donnera pas son nom.
Donald Arden est enseignant. C'est un fidèle lecteur du Chronicle et un passionné de cryptogrammes. Une passion que ne partage pas sa femme Betty. Néanmoins, quand son mari se plonge dans le décryptage du code imprimé dans la presse, elle accepte de lui donner un coup de main.
Tiens, jette un coup d'œil à ce code.
D'accord.
Tu veux qu'on s'y mette ?
Elle a une intuition. Elle est persuadée que le message commence par les mots « I like killing », « j'aime tuer ». Il s'avère que Betty a vu juste. En se fiant à l'instinct de son épouse, Donald Arden cherche les signes qui se répètent dans le message codé, partant du principe que ces signes peuvent être remplacés par un double L, comme dans le mot « kill ». Le double L étant l'un des groupes de consonnes que l'on trouve le plus souvent en anglais, le raisonnement se tient. Il procède ensuite par déduction pour la suite du message. Le vendredi 8 août 1969, à peine 5 jours après la publication du message codé, Donald et Betty Arden passent un coup de fil au standard du San Francisco Chronicle. Ils informent le journal qu'ils ont décodé le message et ils demandent au quotidien de transmettre cette information à la police. Une fois décodé, le message fait froid dans le dos.
J'aime tuer des gens parce que c'est tellement marrant, c'est plus marrant que tuer des bêtes sauvages dans la forêt parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous à tuer. C'est une chose qui me procure l'expérience la plus excitante. C'est même encore mieux que s'envoyer en l'air avec une fille, le meilleur dans tout. Ça, c'est que quand je mourrai, je me réincarnerai au paradis et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donne pas mon nom parce que vous essaierez de ralentir ou d'arrêter ma collecte d'esclaves pour ma vie future.
L'auteur des lettres a menti. Le message ne contient aucun indice à propos de son identité. L'un des éléments du message retient tout particulièrement l'attention des journalistes et de la police. La mention de l'homme comme étant le plus dangereux des animaux.
Vous aviez raison, en fait. Il n'a pas donné son nom. Qui l'a déchiffré ?
Beaucoup y voient une référence au livre « Le plus dangereux des gibiers » paru en 1924. Le plus dangereux des gibiers, c'est une fiction dans laquelle un noble en mal d'adrénaline, le comte Zaroff, attire des bateaux sur son île grâce à un phare fictif. Les bateaux s'écrasent sur des récifs et les survivants, pour autant qu'il y en ait, servent de gibier au comte qui les poursuit à travers la jungle.
Come out, Rainsford! Fight for longing! I'll not bungle this shot. You never even feel it. But surely you don't think that anyone who has hunted leopards would follow you into that ambush? Well, if you choose to play the leopard, I shall hunt you like a leopard.
Le 10 août, la solution du message codé est publiée dans la plupart des journaux de la région. Bizarrement, le même jour, la police de Valero reçoit, dans un courrier anonyme, la clé permettant de décoder le message. La lettre qui accompagne cette clé, désormais inutile, est signée « Un citoyen préoccupé ». Qui est donc ce citoyen ? Pourrait-il s'agir de l'auteur du code lui-même ? Ou de quelqu'un qui aurait simplement recopié la solution dans le journal, histoire de se faire mousser ? L'auteur de la lettre ne sera jamais formellement identifié, laissant libre champ à toutes les spéculations.
Après un examen approfondi par nos experts en criminalité, nous avons conclu que l'auteur de la lettre et du cryptogramme pourrait ne pas être le tueur que nous recherchons.
Sur quoi vous fondez-vous pour asseoir votre argument ?
Dans un premier temps, la police n'est pas convaincue que l'auteur de la lettre soit réellement l'auteur des meurtres de David Faraday, Betty Lou Jensen et Darlene Ferrin. Certains éléments mentionnés comme étant des preuves sont faux. Lors du meurtre de Darlene Ferrin, par exemple, contrairement à ce qui est écrit dans le courrier, Darlene ne portait pas de pantalons imprimés, mais une sorte de robe combinaison à imprimer fleurie. Mike Majo n'a pas été atteint au genou, mais à la cuisse. Par le biais d'une conférence de presse, le chef de la police de Valero, Jack Stills, fait connaître ses doutes. Et il défie le rédacteur anonyme de prouver qu'il est bien impliqué dans les meurtres, en donnant plus de détails. Ce sera chose faite. Une deuxième lettre est postée le 4 août 1969. Elle est adressée cette fois uniquement au San Francisco Examiner. Pour la première fois, l'auteur du message s'attribue un surnom.
C'est le Zodiac qui vous écrit. En réponse à votre demande pour avoir plus de détails sur le bon temps que j'ai passé à Valero, je serais heureux de vous fournir plus d'éléments. Au fait, la police a-t-elle pu déchiffrer le code ? Sinon, qu'ils fêtent ça quand ils auront réussi, parce qu'ils sauront qui je suis. Le 4 juillet, je n'ai pas ouvert la portière de ma voiture. Les vitres étaient déjà baissées. Quand j'ai commencé à ouvrir le feu, le garçon était à l'avant. Au moment où je lui ai tiré dans la tête, il a bondi en arrière, ce qui explique que j'ai raté ma cible. À la place, je l'ai atteint au genou. L'homme qui a dit à la police que ma voiture est marron est un noir d'environ 45 ans, mal habillé. Quand il est passé, j'étais dans une cabine téléphonique en train de m'amuser avec les flics. Après l'épisode de Noël dernier, la police s'est demandé comment je pouvais tirer sur mes victimes dans le noir. C'est simple, j'ai attaché une petite lampe stylo sur le canon de mon arme. Avez-vous remarqué qu'au centre d'un rayon lumineux projeté sur un mur ou sur un plafond, il y a un point noir de 7 à 14 cm de large ? Fixez la torche sur votre canon et la balle frappera en plein milieu du point noir. Il ne me restait plus qu'à les arroser de balles.
Cette deuxième lettre ébranle fortement les services de police des comtés de Valero et de Solano. Tous les éléments mentionnés ne sont pas exacts, mais tout de même, cette profusion de détails les fait douter. Et si l'auteur des lettres était bel et bien l'auteur des crimes ? Il y a un tueur en série en liberté dans la région de la baie de San Francisco. Un homme qui se fait appeler le Zodiac, qui tue des jeunes gens pour le plaisir et qui nargue la police. Personne ne sait qui il est, et pire, personne ne sait si et quand il frappera de nouveau.
Chercher dans sa petite enfance, de sérieux dérangements engendrent des êtres violents. Mais le mal dont il souffre est d'un millier de fois plus sauvage. Et plus terrifiant.
Samedi, 27 septembre 1969. Cecilia Shepard, 22 ans, se prépare à faire ses bagages, le cœur lourd pour retourner dans le sud de la Californie, où elle étudie la musique. Elle, qui était si heureuse de passer quelques jours avec son petit ami Brian Hartnell, elle doit se résoudre à présent à retourner sur son campus. Brian, très amoureux, n'a pas envie de la voir partir. Alors il fait volontairement traîner les choses et pour la garder encore un peu auprès de lui, lui propose d'aller se balader. Il passe tout d'abord voir des amis, puis sur le chemin du retour, Brian décide de faire un détour par un endroit magnifique qu'il aimerait bien lui montrer.
Ici, c'était la ville de Monticello. Mais à un moment, le comté a décidé que le terrain avait plus d'intérêt en tant que lac. Alors ils l'ont inondé. Mais il y a toute une ville...
Une ville cachée au fond de l'eau. On est venu au printemps, tu te souviens ?
Ah oui.
Cet endroit, c'est le lac Berryessa, qui se trouve au nord de Napa. Ce lac artificiel, d'une superficie de 78 km², assure les besoins en eau et en électricité des habitants de la baie de San Francisco. Le lac est fréquenté par les nageurs, de nombreux badauds et des pêcheurs car on y trouve en abondance des truites et des poissons-chats. Ce décor paisible et bucolique est aussi un endroit très apprécié par les jeunes couples amoureux. Il est 16h, lorsque le coupé Volkswagen bicolore de Brian s'arrête sur le bas-côté de la route sinueuse qui longe le lac à Twin Oak Ridge. C'est à l'ouest de Berryessa.
«
La vue est magnifique, avec ses grands chênes californiens et ce soleil qui projette ses rayons chauds sur les pentes des montagnes Vaca. Pendant que de rares bateaux passent au loin, le couple se dirige vers une presqu'île où se trouvent trois grands chênes. Brian déplie une couverture près de la rive. Fils de Calvin et Catherine Hartnell, le jeune homme de 20 ans est étudiant en droit au Pacific Union College dans la ville voisine d'Anguin. Il est, comme on dirait aujourd'hui, un beau gosse. Mèche épaisse, en vague sur le côté, lunettes aux montures épaisses, cheveux brun foncé, yeux marrons, Brian vit à Sainte-Hélène, une ville du comté de Napa qui se trouve à une petite trentaine de miles du lac Berryessa. Sa compagne, Cecilia, est une jeune femme blonde aux yeux foncés. Elle est née en Inde en 1947. Elle est étudiante au Riverside City College qui se trouve à l'ouest de Los Angeles.
Cet endroit est tellement beau.
Ouais. Il n'est beau que parce que tu es là. Je ne veux pas que tu t'en ailles.
Ne t'inquiète pas. Tu sais bien que je ne vais pas loin. Rien n'empêche qu'on continue à se voir.
Oui, je sais.
Elle est à présent couchée sur le ventre et pose sa tête sur la poitrine de Brian. Il parle peu, ou plutôt il se parle avec les yeux. Lorsque Brian entend tout à coup un bruit suspect juste derrière eux. Cecilia lève la tête et aperçoit la silhouette d'un homme trapu qui semble venir en leur direction, puis disparaît soudainement derrière un bosquet.
Il y a quelqu'un ?
C'est un parc public.
Je crois qu'il nous regarde.
Il faut dire qu'on est beau.
Brian demande si elle le voit encore. Elle scrute les environs et annonce qu'il s'est à présent caché derrière un arbre.
Où est-ce qu'il est ? Il est derrière un arbre.
Bien, il est en train de pisser.
Il ressemble à quoi ? Vas-y, raconte-moi.
C'est un homme blanc avec les cheveux bruns.
Le couple, qui se sent observé, est de plus en plus mal à l'aise. L'homme est à présent à environ une vingtaine de mètres sur la droite. Tout à coup, l'étudiante secoue Brian et lui dit
« Il vient vers nous. Ah mon Dieu, il a une arme !»
En l'espace de quelques secondes, cette douce journée d'automne vire au cauchemar. L'homme sort de sa cachette et avance en direction du couple. Il porte des vêtements sombres et démodés, mais surtout une cagoule noire sur la tête. Une étrange cagoule aux formes anguleuses avec un trou pour la bouche et deux pour les yeux. Cela ressemble à un sac en tissu d'épicerie qui descend jusque sur les épaules et qui se prolonge sur la poitrine en forme de plastron. Sur cette partie, il y a un symbole bien visible. Un symbole qui représente une cible avec une croix et un cercle. À présent, Cecilia peut voir que l'homme a un pistolet en main, mais aussi un couteau. Elle est terrorisée et empoigne fermement les vêtements de Brian. Lui pense que c'est peut-être une mauvaise blague. L'homme masqué est à présent au-dessus du couple qui est toujours allongé sur la couverture. L'homme prend alors la parole avec une voix étrangement douce et monocorde.
Bougez pas. Je veux votre argent et vos clés de voiture.
D'accord. On ne va rien faire. D'accord. On va coopérer. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse.
Pendant qu'il parle, Brian observe son agresseur. Il porte une chemise en laine rouge foncé, un coupe-vent bleu et puis... il y a cette étrange croix cerclée cousue sur sa cagoule. L'homme ajoute « Je me suis échappé d'une prison en tuant deux gardes. »
Tenez. Vous pouvez prendre tout ce qu'il y a dedans.
Un prisonnier, avec une cagoule, un couteau rangé soigneusement dans son fourreau noir. Il y a, dans cette scène, quelque chose de vraiment bizarre. Brian tente pour gagner du temps de faire parler l'inconnu qui pointe toujours son semi-automatique sur le couple.
Je suis désolé, je sais pas trop où j'ai mis mes clés. Elles sont peut-être sur la couverture, vous permettez que...
L'étudiant terrorisé cherche maladroitement ses clés. Ses pensées se bousculent dans sa tête.
Voilà les clés.
Il tente une ultime conciliation en affirmant qu'il est spécialisé en sociologie, qu'il pourrait lui offrir de l'aide. Mais c'est un échec.
Vous savez, je peux peut-être vous aider. Peut-être même plus que vous le pensez.
Il fait des études de sociologie.
Et du droit.
L'agresseur reprend la parole et dit...
Ne te relève pas. Je veux qu'elle t'attache.
Il dénoue alors les deux cordes attachées à sa taille qu'il jette sur le sol.
D'accord.
Cécilia s'exécute sans discuter et s'arrange pour ne pas trop serrer.
Il ne sent pas, tu m'en veux.
Ne t'inquiète pas, chérie, fais tout ce qu'il te dit.
Je vous en prie.
Pitié.
Oh, je vous en supplie, laissez-nous partir.
Je vous en prie.
C'est alors que l'homme masqué range son pistolet pour ligoter la jeune femme et refaire soigneusement les nœuds des pieds et des mains de Brian en serrant le plus fort possible.
J'ai tué un gardien en m'évadant de prison dans le Montana.
Je ferai rien, je vous assure.
Je n'ai pas peur de tuer à nouveau.
Cécilia est à présent face contre terre. Brian est sur le côté. Pour toujours garder le contact, l'étudiant réitère son offre. Je peux vous aider si vous le souhaitez. Pas de réponse. Alors il enchaîne sur une question.
Dites, juste parce qu'on nous demandera, votre arme, elle était chargée ?
L'inconnu accède à la requête, sort la cartouche et lui montre une balle de calibre 45. Cécilia est horrifiée, Brian paniqué.
Ça va aller. Tout va bien se passer.
L'homme reprend la parole avec une voix différente, plus rauque, plus agressive. Il dit...
Je vais devoir vous poignarder.
Une longue lame de 30 cm brille au soleil. L'agresseur se met à genoux et plante à plusieurs reprises son couteau dans le dos de Brian. Cécilia en pleurs hurle à l'homme d'arrêter. Brian s'évanouit de douleur pendant quelques secondes, laissant seul son ami avec leur bourreau. La lame du couteau, pleine de sang, pénètre à présent les chairs de la jeune femme. L'homme semble en transe, comme possédé. Il plante une dizaine de fois son arme blanche dans le corps de Cécilia, qui tente de s'échapper, ce qui ne fait qu'exciter encore plus son agresseur, tout comme la vue du sang qui se répand sur la couverture. Brian revient à lui, tourne la tête pour ne pas voir le carnage, et fait le mort. Si la technique de la conversation amicale n'a pas fonctionné, celle-ci va lui sauver la vie. L'homme s'éloigne à présent de la rive, puis se dirige vers la voiture de Brian. Il s'agenouille, quelques instants devant la portière côté passager, puis poursuit son chemin jusqu'à sa voiture. Le moteur démarre, du bruit, de la poussière, et puis plus rien. Brian se retourne alors vers son amie. Malgré son aorte tranchée à plusieurs endroits, elle est toujours en vie. Brian arrive péniblement à rouler vers Cécilia pour la libérer de ses liens, en tirant sur les nœuds avec ses dents. À présent, chaque minute, chaque seconde compte. Les deux amoureux se vident de leur sang, et d'un instant à l'autre, le fou furieux peut revenir une seconde fois pour terminer son travail. Comme il l'avait d'ailleurs déjà fait au début de l'été, sur le parking du golf de Blue Rock Springs, à 45 miles au sud du lac Berryessa. Cécilia est enfin libre et détache son amie avec une force qui semble inimaginable quand on pense qu'elle vient de recevoir 10 coups de couteau. Brian appelle au secours, mais personne ne semble venir. Il pense pouvoir rejoindre la route, mais il est bien trop faible pour tenir debout. C'est à ce moment précis qu'un miracle se produit. Ronald Henry Fong, un habitant de San Francisco et son fils, se rapprochent avec leur bateau. Après avoir pêché pendant toute la journée, en rejoignant tranquillement la rive, ils ont entendu des gémissements en provenance d'une presqu'île située sur la droite. L'embarcation à rames se rapproche, puis soudain fait demi-tour. L'homme, en découvrant cette scène d'horreur, décide de partir chercher des renforts. En arrivant à hauteur du ranch Monticello, il prévient des rangers. De leur côté, Cécilia et Brian pensent que la fin est proche en voyant la frêle embarcation s'éloigner. Ils se savent à présent condamnés et que plus personne ne viendra les sauver. Des pleurs, de la douleur, ce n'était pas vraiment ce que l'on peut appeler une belle journée ce samedi 27 septembre 1969. Dans un dernier effort, Brian rampe sur 300 mètres en direction de la route, mais il voit à présent que ses forces l'abandonnent, et la vie aussi. Puis tout à coup, au loin, le bruit d'une sirène de police. Le ranger, Dennis Land, qui vient de recevoir un appel d'urgence, arrive sur place. Puis, ce sont deux bateaux avec d'autres policiers qui rejoignent rapidement les lieux du drame. On enveloppe les deux jeunes gens en état de choc dans des couvertures.
Ça va ? Restez calme, je vous emmène vers une petite virée.
Attention devant !
Tenez le coup, ça va aller, ce sera pas long.
Dans l'ambulance, qui l'emmène vers l'hôpital, le jeune couple perd plusieurs fois connaissance. Des policiers sont à leur côté pour rassembler un maximum d'informations sur l'agresseur. Si dans un premier temps, poussé par son instinct de survie, Brian n'a pas vraiment senti la douleur, à présent, il souffre atrocement. C'en est même trop pour Cecilia qui demande à plusieurs reprises qu'on abrège ses souffrances. Lors d'un premier examen, on estime qu'elle a reçu entre 10 et 20 coups de couteau. Brian a beaucoup de chance. Même s'il a perdu énormément de sang, aucun organe vital n'a été touché. Le shérif de Napa note dans son rapport, heure de l'agression, 19h13.
On le perd, vite. Branchez le défibrillateur.
Commencez le massage. 1, 2, 3, 4, en charge. Chargé. Pas de changement.
200.
En charge. Chargé.
27 minutes plus tard, très exactement, le téléphone du commissariat de Napa sonne. C'est l'agent David Slate qui décroche. Un homme d'environ 25 ans, avec une voix calme et monotone, dit au bout du fil...
Police de Napa ?
Je veux signaler un meurtre. Non, un double meurtre. Ils sont à 5 km au nord du bureau du parc. Ils étaient dans une Volkswagen Carmen Ghia blanche. Je suis celui qui a vu ça.
Très vite, l'endroit de l'appel est localisé. C'est une cabine téléphonique qui se trouve à quelques pâtés de maison du poste de police de Napa, au coin de la rue Clinton. C'est l'inspecteur principal Kenneth Narlow qui se voit chargé de l'affaire. Lorsqu'il arrive à l'hôpital pour interroger les victimes, la jeune femme est hélas déjà dans le coma. Plus tard en soirée, il rejoint le lac Berryessa. En arrivant sur place, on l'informe d'une étrange découverte.
Comment expliquez-vous les lettres et les coups de fil ?
Il s'agit de quelqu'un de vraiment perturbé. Je pense qu'il veut qu'on l'attrape. Il demande de l'aide et tant qu'il n'en aura pas, ses tendances violentes seront de plus en plus fortes.
Sur la portière, côté passager, il est écrit « Valero », puis en dessous, il y a trois dates. 20 décembre 1968, 4 juillet 1969 et 27 septembre 1969, 18h30, avec la mention « Au couteau ».
Écrire les dates sur la portière de la voiture. On a deux meurtres à Valero et maintenant un à Napa. Pourquoi Napa ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ?
Au-dessus de ce message, il y a un symbole composé d'un cercle et d'une croix. Un cercle et une croix qui ressemblent à un viseur ou encore à une croix celtique. La police scientifique ne trouve étrangement aucune trace de sang sur cette portière. Par contre, on trouve une empreinte digitale et une empreinte de pas juste à côté de la voiture, faite par une chaussure de pointure 44. Mais est-ce bien celle de l'agresseur ? L'enquête ne fait que débuter.
Il avait sans doute des gants pour manipuler la lettre.
Des gants ?
L'analyse des empreintes ne sera pas là avant 2 heures, mais je pense que ça donnera rien. Selon les gars de la graphologie, il est droitier. Mais il aurait pu écrire de la main gauche, en jugé par l'inclinaison des K et des T.
Il nous mène en bateau.
En ce qui concerne les fautes d'orthographe, tu as quelque chose à dire ?
Très vite, la police fait le lien entre tous ces crimes odieux qui sont l'œuvre d'un désaxé toujours en liberté. Les gens de la région sont terrorisés en découvrant dans la presse ce dessin réalisé à partir des souvenirs de Brian. Il y a un homme avec des bottes, un couteau, de la corde à linge et un fusil. Il porte une capuche noire qui descend jusqu'au milieu du torse et sur laquelle est brodé le symbole du zodiaque, une sorte de carte de visite morbide d'un tueur sans limite.
Le garçon du lac,
C'est à ça qu'il a dit que Zodiac ressemblait.
Paul,
ah ben, c'est un sacré déguisement.
Paul, mais qu'est-ce que tu fous là?
C'est écrit.
C'est quoi ça?
C'est le Zodiac, Polak.
Brian va survivre à ce cauchemar. Il restera pendant plusieurs mois sous étroite surveillance de la police qui souhaite le protéger. Brian Hartnell est à présent avocat. Il vit avec sa femme Monica et ses deux enfants Benjamin et Jonathan à Redlands en Californie. Il a assisté en février 2007 à la projection du film Zodiac de David Fincher, car il a été contacté par la production et a reçu le scénario. Son seul souhait était de ne pas présenter le tueur du Zodiac comme un héros, mais bel et bien un assassin. Brian a déclaré « C'est une assez bonne représentation de ce à quoi je ressemblais et de ce à quoi ressemblait Cecilia. » Puis il a ajouté « Je pense que le Zodiac n'est plus de ce monde. »
Vous avez déclaré que la première chose que vous avez dite à la police, c'était une description de l'individu. Comprenez-vous maintenant comment votre esprit était capable de fonctionner aussi bien dans ces conditions? Vous avez vraiment fait quelque chose d'exceptionnel.
From that moment on, one has to have certain goals that you have to set. The first goal, of course, was to live.
Eh bien, pendant toute cette période, comme je l'ai dit auparavant, dès le départ, j'étais persuadé que j'allais mourir. Partant de là, je me suis fixé certains objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'était de vivre. Je suppose que le deuxième, c'était de me détacher, ensuite de trouver de l'aide, d'aller à l'hôpital. Il faut se donner des objectifs qui permettent de s'en sortir. Et si vous parvenez à les atteindre, si vous gardez votre esprit en alerte, que vous mouriez ou non, au moins psychologiquement, vous tenez le coup. Que vous soyez en état de choc ou non, si vous continuez à argumenter avec vous-même, ou si vous priez, faites n'importe quoi, pourvu que vous restiez conscient et que vous ne baissiez pas les bras.
Anything to keep your mind off of yourself, or at least just not lapsing back and just saying, well, it's no use.
Vous trouverez sur la chaîne Time Traveler sur YouTube une interview de Brian sur son lit d'hôpital. Une interview réalisée par le journaliste Dave Monsees le 30 septembre 1969. On peut voir accrochées au mur du Queen of the Valley Hospital les nombreuses cartes et lettres de soutien qu'il a reçues de ses proches et de la population du comté de Napa.
J'ai cru que c'était un voleur et ça ne m'a pas traversé l'esprit qu'il puisse être autre chose. Je pensais qu'il allait me voler. Je n'ai pas pensé qu'il pouvait menacer ma vie ou celle de ma compagne. Je voulais vraiment l'aider. Est-ce qu'il semblait vouloir votre aide? Non, et en fin de compte, il n'a même pas pris l'argent.
Lundi 29 septembre 1969, 15h45. Le cœur de Cecilia vient d'arrêter de battre. Elle avait seulement 22 ans. Le jeudi 2 octobre, plus de 1100 personnes assisteront aux funérailles de la jeune femme. La cérémonie débute avec une interprétation au piano de la composition de Félix Mendelssohn, appelée Rêverie. Cecilia Ann Shepard est enterrée au cimetière de Sainte-Hélène. Sur la plaque de sa sépulture, il est écrit « Jusqu'à la venue du Christ ».
Albert Di Salvo, Bianchi e Buono, Berkowitz, Dahmer, Ted Bundy, des types discrets, sans histoire et même gentils. Ils avaient un emploi, ils étaient d'excellents voisins, leurs victimes leur faisaient confiance. D'après le FBI, il n'y aurait pas moins de 35 tueurs en série à la recherche de victimes potentielles à l'heure où je vous parle.
Samedi 11 octobre 1969, San Francisco.
Et c'est tout pour l'actualité sur la 20. Nous avons des couvre-feux effectifs ce soir pour les comtés suivants. Napa, Solano, Contra Costa, Alameda, Marin et San Mateo. Alors je vous en prie, restez chez vous en sécurité. Vic de San Francisco, vous êtes à l'antenne. Vous n'avez pas peur du Zodiac?
Aux alentours de 21h, Paul Lee Stein, 29 ans, prend son service au volant du taxi numéro 912 de la compagnie Yellow Cab. C'est un étudiant fraîchement diplômé et un jeune marié. Ce job de chauffeur, il ne compte pas l'occuper très longtemps. Sa première course est pour l'aéroport. En revenant vers le centre-ville, Paul Stein prend la direction du quartier des théâtres. Les premières représentations ne vont pas tarder à se terminer et il y aura certainement plusieurs courses à faire pour ramener des spectateurs chez eux.
Vous êtes libre ?
Ça dépend où vous allez.
Washington et Maple.
Sur les hauteurs de Presidio?
Oui.
C'est votre jour de chance. Il fallait que j'y aille. Grimper.
Le trajet prend une dizaine de minutes. Arrivé à destination, le passager de Paul Stein lui demande de le laisser au coin du bloc suivant, à l'angle des rues Washington et Cherry.
Voilà, je vous arrête là.
Allez jusqu'au bas des marches.
D'accord, comme vous voulez.
Paul obtempère. Il roule 100 mètres de plus et arrête son taxi juste en dessous d'un réverbère. Paul Stein n'encaissera jamais le prix de sa course. Le passager sort une arme, la pointe sur la droite de la tête de Paul, juste à la base du crâne, et tire.
On y est, ça vous fera...
Paul meurt sur le coup, il y a du sang partout. Sur les vêtements du mort, sur le siège avant, sur le tableau de bord. Dans la maison située de l'autre côté de la rue, un groupe d'adolescents observe la scène d'un œil distrait depuis la fenêtre du dernier étage. Ils n'entendent pas le coup de feu et ils ne perçoivent pas ce qui se passe avec précision. Mais ils acquièrent rapidement la conviction que le chauffeur est en train de se faire agresser. Le passager est hors de la voiture vers l'avant, il se glisse sur le siège passager. Les ados voient le corps de Stein étendu en travers de la banquette. Ils décident de se rendre à leur au rez-de-chaussée pour mieux voir. En descendant, ils croisent le poste de téléphone familial et appelle la police.
Police de San Francisco?
Il y a une bagarre dans un taxi.
Quelle est votre adresse?
3398 Washington, au coin de Cherry. Il y en a un qui est ivre et on pense qu'il le vole.
Le délit est toujours en cours?
Oui, je vous en prie, venez vite.
Il donne une description de l'agresseur. Un homme blanc, trapu, d'environ 1m75, entre 25 et 35 ans. Il porte des lunettes, une parka bleu marine ou noire, et ses cheveux sont coupés en brosse. Depuis la fenêtre du rez-de-chaussée, les trois étudiants constatent que le passager du taxi est à présent sorti du véhicule. L'individu fait le tour de la voiture, il se dirige côté conducteur, et ce faisant, il essuie plusieurs éléments de la carrosserie avec un chiffon. Puis l'inconnu tourne au coin de la rue et s'éloigne d'un pas décidé en suivant Cherry Street en direction du nord.
Le suspect est un noir adulte.
Grâce à l'alerte donnée par les jeunes témoins, plusieurs patrouilles de police se dirigent vers le lieu du crime. Malheureusement, la description du suspect transmise par radio au véhicule de patrouille est fausse. Le signalement décrit un homme noir, alors que l'homme recherché est en fait blanc.
Bonsoir, belle nuit pour un vol qui dérape.
Ouais, le troisième de la semaine, ça doit être la bousculade de fin d'été.
J'ai des patrouilles à pied dans tout le parc. Les chiens vont arriver. La victime s'appelait Paul Stein, déclaré mort à 22h10. Le suspect a tiré une balle dans l'arrière du crâne. Le portefeuille et les clés de la voiture ont disparu.
Cette erreur aura de lourdes conséquences. L'un des véhicules de police croise un homme qui correspond trait pour trait à la description donnée par les jeunes témoins. Mais comme il pense rechercher un homme noir, il ne l'arrête pas.
Vous n'auriez pas vu quelqu'un sortir du taxi qui est là-bas?
Comment?
Vous n'auriez pas vu dans les 5 dernières minutes un homme de type africain?
Oui, en effet. Il est parti par là.
Merci. Rentrez chez vous.
L'erreur sera vite repérée et corrigée, mais trop tard. La voiture de patrouille a beau faire demi-tour, d'autres véhicules et des agents à pied fouillent les environs, mais rien n'y fait. L'homme reste introuvable. C'est peut-être le Zodiac qui vient de s'échapper.
Le corps ou les lieux?
Non, je prends le corps, c'est ton anniversaire.
Dave, il a l'air d'avoir soigneusement tout effacé, mais on a du sang par là.
Des empreintes?
Ça paraît possible, on saupoudrera au central. Ce qui est curieux, c'est qu'on a aussi des gants.
Des suspects?
Il y a du sang dessus.
Autour du taxi de Paul Stein, c'est l'effervescence. Plusieurs voitures de police sont arrivées et elles éclairent de leurs gyrophares les rues cossues et habituellement tranquilles du quartier de Presidio. On a fait venir les inspecteurs de garde cette nuit-là, Dave Toshi et Bill Armstrong. Ce sont tous deux d'excellents détectives, mais Dave Toshi est une véritable star. C'est lui que Steve McQueen a pris pour modèle pour interpréter le personnage de Bullitt.
L'éclairage est le même là-bas, alors peut-être que j'ai vu quelqu'un qui promenait son clébard.
Tu ne veux pas de témoin, alors tu lui demandes d'aller une rue plus loin. Il s'arrête.
J'attends qu'il passe au point mort, parce que je suis malin et que je ne veux pas qu'il appuie sur l'accélérateur quand je le descends. Je peux ?
Il s'arrête, passe au point mort, boum.
Je tire du côté droit du crâne et il s'écroule à droite?
Peut-être que tu le tiens par le col quand tu tires.
Bon, de toute façon, je viens de répandre 1 litre de sang sur le siège avant.
Alors pourquoi tu vas sur le siège avant?
Pour prendre le fric.
Mais il est mort. Il suffit que tu te penches pour lui prendre son portefeuille. T'as pas besoin de t'approcher du sang. Alors pourquoi il est passé sur le siège avant?
Armstrong et Toshi constatent que le voleur a emporté les clés et le porte-monnaie de Paul Stein. Ils trouvent une douille de 9 mm sur le sol du véhicule et une paire de gants noirs abandonnés sur la banquette arrière. Ils trouvent également une empreinte digitale ensanglantée entre les portes avant et arrière, côté conducteur. Les deux officiers de police pensent avoir affaire à un vol qui a mal tourné. Grâce à la description qu'ils en ont et l'empreinte retrouvée, ils espèrent pouvoir rapidement mettre la main sur le coupable. Ils seront vite détrompés.
Il avait l'air d'être ivre et de se battre.
Oui, il avait un chiffon. Il a fait le tour de la voiture et essuyé des trucs.
Vous avez réussi à voir son visage?
Moi, je l'ai vu. Enfin, un peu.
Est-ce que tu te souviens de quoi il avait l'air?
Normal.
Quelques jours après le meurtre, une nouvelle lettre arrive dans les bureaux du San Francisco Chronicle. Le cachet indique qu'elle a été postée le 13 octobre, soit 2 jours après la mort du chauffeur de taxi.
C'est encore le Zodiac qui vous écrit. C'est moi qui ai tué le chauffeur de taxi près de Washington et Maple Street la nuit dernière. Pour vous le prouver, je vous envoie un morceau de sa chemise tachée de sang. C'est moi aussi qui ai assassiné ces gens dans la zone de North Bay. Les écoliers, voilà une bonne cible. Je pense que je vais attaquer un car scolaire un de ces matins. Je tire dans un pneu avant et j'abats les mômes au fur et à mesure qu'ils sortent.
Dans l'enveloppe, en plus de la lettre, se trouve un morceau de tissu. Il provient d'une chemise blanche à rayures grises et il est maculé de sang. Le sang de Paul Stein. La police de San Francisco est sous le choc. Elle croyait avoir affaire à une banale affaire de vol qui a mal tourné. La voilà aux prises avec un tueur psychopathe. Mais est-ce vraiment le Zodiac? La même personne qui a déjà revendiqué 3 autres attaques. Pour en avoir le cœur net, elle décide de faire examiner les différents courriers en sa possession. L'expert qui a la difficile tâche de les authentifier se nomme Sherwood Morrill et son verdict est sans appel. C'est bien la même personne qui a écrit les 3 courriers. Le Zodiac est à San Francisco.
Qu'est-ce que c'est?
Des similitudes dans les R minuscules.
Les forces de l'ordre sont sur les dents et elles redoublent d'efforts pour coincer ce maniaque. Dès le 18 octobre, un portrait robot circule dans toute la région de la baie de San Francisco. De façon inexplicable, la description qui est faite du suspect a été corrigée. L'âge de l'homme recherché est évalué à présent entre 35 et 45 ans, plus vieux que la description donnée par les témoins du meurtre de Paul Stein.
Est-ce que vous lui avez parlé? Oui? Non?
Vous allez voir le dessinateur de portraits robots. On a besoin d'un composite tout de suite.
Comme pour les précédentes, le San Francisco Chronicle publie la lettre du Zodiac. Et son message va créer une panique sans précédent dans toute la région. La menace semble extrêmement sérieuse. En particulier car cet individu dérangé défie la police et les citoyens de s'en prendre à ce qu'ils ont de plus précieux. Leurs enfants.
Nous avons vérifié, madame.
Oui, monsieur, nous ajoutons votre blanchisseur à notre liste de suspects.
Conférence de presse à 16h. Il faut qu'on ait quelque chose.
On travaille en concertation avec le bureau des écoles. On devrait boucler l'affaire très vite.
Pour rassurer la population, des voitures de patrouille vont escorter les cars scolaires pendant de longues semaines, monopolisant un nombre colossal d'agents de police et d'heures de service. Au milieu de ce chaos, le matin du 22 octobre, le poste de police d'Oakland reçoit un appel d'une personne qui prétend être le Zodiac.
Oui.
Quelqu'un qui prétend être Zodiac a appelé la police d'Oakland il y a une demi-heure. Il dit qu'il va appeler pendant l'émission de Jim Dunbar dans 3 heures.
À la télévision?
Il veut que Melvin Bell aille soit son conseil.
Bien, bien. Allons réveiller Melvin.
L'homme exige d'être mis en relation avec l'un des avocats stars du moment, soit Melvin Balai, soit F. Lee Bailey. Celui qui pourra se rendre disponible devra participer à la très populaire émission de télévision matinale présentée par Jim Dunbar sur la chaîne KGO. F. Lee Bailey n'est pas disponible, mais Melvin Balai accepte. Il est l'un des avocats les plus en vue du pays depuis qu'il a défendu Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, l'homme à qui on attribue la mort du président Kennedy. On compte aussi pas mal de célébrités parmi ses clients, comme Mohamed Ali et les Rolling Stones. Melvin Belay est toujours partant pour un bon coup de pub, tout comme Jim Dunbar et la chaîne de télévision KGO. Les voilà donc assis sur le plateau, en attendant que le supposé tueur veuille bien se manifester.
Vous localiserez l'appel ?
Pacific Telephone dit qu'il faut que vous le gardiez en ligne durant 15 minutes.
Ça me paraît faisable, n'est-ce pas, Jim ?
15 secondes, libérez le plateau.
Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de l'émission où nous a rejoint l'avocat Melvin Belay, à qui le tueur du Zodiac a personnellement demandé d'être présent.
Et effectivement, un homme prétendant être le Zodiac va téléphoner à la station de télévision. La conversation entre Belay et celui qui demande à se faire appeler Sam est totalement surréaliste.
Enregistré, enregistré.
Jim, on a un appel, on reprend le direct.
Allô ? Allô, je suis Melvin Belay. Puis-je savoir à qui je parle ?
C'est le Zodiac qui vous parle.
Pourriez-vous m'indiquer un nom qui soit un peu moins sombre ?
Sam.
Sam ?
Oui.
Sam, pensez-vous avoir besoin d'une assistance médicale ?
Médicale, pas mentale.
Vous avez un problème de santé ?
Je suis malade, j'ai des maux de tête.
Des maux de tête ? J'ai des maux de tête aussi, mais un chiropracteur les a fait cesser la semaine dernière. Je pense que je peux vous aider, Sam. Sam ?
Il sait qu'il localise ses appels.
Sam slash le Zodiac va raccrocher au bout de quelques petites minutes, puis rappeler à nouveau le standard. Il va faire ça une douzaine de fois pour éviter que la police ne puisse tracer son appel. Après cette émission de télévision, Melvin Belay reçoit plusieurs appels téléphoniques à son domicile. Il a le sentiment qu'il s'agit du même interlocuteur. La police va alors mettre le téléphone de l'avocat sur écoute et tracer l'appel. La piste les mène à un hôpital psychiatrique d'Oakland, vers un patient du nom de Eric Will. Mais impossible qu'Eric Will soit le Zodiac. Une fois de plus, la piste termine en cul-de-sac.
Vous avez un problème de santé ?
Je ne veux pas aller dans la chambre à gaz. J'ai des maux de tête. Quand je tue, je n'en ai plus.
Vous
non, c'est pas lui.
Oui.
Eh bien, ceci est votre la voix est trop légère, trop jeune.
Bien, merci d'être venu, Brian. Un coup de main ?
Ça va, c'est bon.
Entre-temps, la police fait écouter les enregistrements pris lors du show de Jim Dunbar aux personnes qui ont supposément déjà entendu la voix du Zodiac, à savoir les deux opérateurs de police qui ont répondu à ces appels après les attaques de Valero et de Napa, et le survivant Brian Hartnell. Tous les trois sont formels. La voix qui discute à la télévision avec Melvin Belay n'est pas celle qu'ils ont entendue.
La standardiste de la police d'Oakland est certaine que l'homme qui elle a parlé avait une voix plus grave, plus calme.
Après le show de Jim Dunbar, le Zodiac ne fait plus parler de lui pendant plusieurs semaines. Sa lettre suivante est postée le 8 novembre 1969, presque un mois après le meurtre du chauffeur de taxi Paul Stein. Encore une fois, elle a été postée de San Francisco et elle est adressée à son quotidien préféré, le San Francisco Chronicle. D'après certaines sources, cette lettre aurait contenu un autre morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stein, alors que d'autres réfutent ce fait. Ce qui est certain, c'est que la lettre, très courte, contient aussi un nouveau message codé.
C'est le Zodiac qui vous parle. J'ai pensé qu'une bonne plaisanterie vous ferait du bien avant d'apprendre la mauvaise nouvelle qui ne tardera pas à arriver. Postscriptum. Pouvez-vous publier ce message chiffré en première page ? Je me sens si seul quand on ne parle pas de moi. Si seul que je pourrais faire mon cirque.
Au premier abord, le code, bien que légèrement plus court, ressemble au précédent. Il comporte 340 caractères et sera désormais identifié comme étant le 340 Cipher ou Z340. Mais il s'avère, en réalité, bien plus compliqué à craquer. Pendant plus de 50 ans, des experts et des amateurs de tous horizons vont essayer sans succès avant qu'une équipe de trois passionnés y parvienne enfin en décembre 2020. Mais revenons pour l'heure en 1969. Le lendemain de cette nouvelle lettre, le 9 novembre, le Zodiac en adresse une autre encore, toujours au San Francisco Chronicle. Et cette fois, le supposé tueur semble avoir envie de faire des confidences.
C'est le Zodiac qui vous parle. Jusqu'en octobre, j'ai tué cette personne. Je suis en colère contre la police qui ne cesse de mentir à mon sujet.
Donc je vais changer la manière dont je collecte mes esclaves. Je n'annoncerai plus à personne le moment où je commettrai mes meurtres. Ils auront l'air de vols ordinaires, de meurtres de colère, et de quelques faux accidents, etc. La police ne m'arrêtera jamais parce que j'ai été trop malin pour elle. Je ressemble à la description qui circule au moment où je fais mon truc. Le reste du temps, je suis totalement différent. Je ne vous dirai pas en quoi consiste mon déguisement au moment où je tue. Jusqu'ici, je n'ai laissé aucune empreinte derrière moi, contrairement à ce que dit la police. Je porte des empreintes transparentes. Ça se résume à deux couches de colle à maquette passées au bout de mes doigts. J'aime agacer les poulets bleus. Hey, poulet bleu, j'étais dans le parc, tu te servais de camion de pompiers pour masquer le bruit de tes voitures de police. Hey, sale poulet, ça te met pas en boule qu'on te frotte le bec dans tes conneries ? Si vous, flics, pensez que je vais m'attaquer à un bus comme j'avais averti que je le ferais, vous méritez d'avoir des trous dans vos têtes.
La suite de cette lettre contient de très nombreux détails qui semblent authentifier son auteur comme étant bel et bien le Zodiac. Mais à y regarder de plus près, certains éléments laissent perplexes. Il y a d'abord le nombre de victimes revendiquées, 7, alors que 5 seulement nous sont connues jusqu'ici. Le tueur ignore-t-il que certaines de ses cibles ont survécu ? En ce qui concerne le meurtre de Paul Stein, le correspondant semble savoir que la police a trouvé une empreinte digitale sur le taxi. Mais comment peut-il être au courant ? Il y a aussi la prétention d'avoir parlé à un agent de police à proximité du lieu du meurtre de Paul Stein. Or, l'agent qui pense avoir aperçu un potentiel suspect assure qu'il ne lui a jamais parlé. Pour l'heure, ce ne sont pas ces quelques incohérences qui occupent la police de San Francisco, mais la nouvelle menace de faire exploser une machine de mort. La psychose collective et la peur enflent à nouveau dans la baie de San Francisco, et l'on somme la police de trouver ce dangereux individu au plus vite. Les agents vont examiner toutes les pistes possibles, allant même jusqu'à éplucher le cadastre pour repérer les maisons dotées d'une cave.
Allô ?
Bill ? Il n'y a pas beaucoup de caves en Californie.
Dans ma cave en attendant ?
C'est ça.
Je demanderai à Valero et à Napa de vérifier avec l'urbanisme. Va dormir.
Oui, j'y vais.
Mais une fois encore, les enquêteurs sont bredouilles. Heureusement, tout comme sa menace de s'en prendre à des écoliers, le Zodiac ne fera jamais exploser de bombes. Ses assertions ne semblent être que pure intimidation et elles ne sont jamais suivies d'effets. Pourtant, il n'y a pas de répit pour la police de San Francisco. En 1969, ses bureaux sont littéralement engloutis sous des piles de lettres de tous les individus revendiquant être le Zodiac. Heureusement, Sherwin Morrill, l'expert en documents, apporte son concours pour distinguer les menaces sérieuses des plaisantins. La prochaine lettre du tueur se fera attendre plus d'un mois et demi. Elle est postée le 20 décembre, soit pile un an après les meurtres de Betty Lou Jensen et David Faraday. Cette fois, elle n'est pas adressée au Chronicle, elle arrive directement au domicile personnel de l'avocat star, Melvin Belay.
Cher Melvin, c'est le Zodiac qui vous parle.
Je vous souhaite un joyeux Noël. La seule chose que je vous demande est la suivante. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne peux pas appeler à l'aide parce que cette chose en moi m'empêche de le faire. Je trouve extrêmement difficile de la contenir à l'intérieur et j'ai peur de reperdre le contrôle de mes actes et de faire ma 9e et peut-être même ma 10e victime.
Les enfants sont pour l'instant hors de danger parce qu'il faut beaucoup creuser pour cacher la bombe et que le détonateur est difficile à régler. Mais si je me retiens trop longtemps à m'occuper du numéro 9, j'ai peur de perdre complètement le contrôle et de déclencher la bombe. Aidez-moi à combattre la chose.
Fait étrange, l'auteur de la lettre mentionne sa 9e victime, alors que pour l'instant, personne n'est même au courant d'un éventuel 8e disparu. Et chose encore plus étrange, la lettre est écrite avec le plus grand soin. Le texte n'est pas incliné vers le bas, les caractères sont tracés clairement, et il n'y a pratiquement aucune faute d'orthographe. Pourtant, Sherwin Morrill en est certain, c'est bien l'écriture du Zodiac. La même que sur les courriers précédents, et que sur la portière de la Volkswagen de Brian Hartnell. Et comme pour soutenir l'affirmation de Sherwin Morrill, la lettre contient aussi un dernier morceau de la chemise pleine de sang de Paul Stein, le chauffeur de taxi.
Mais ce qui compte, c'est la lettre.
Je reviens.
Inspecteur Toski, j'ai la conviction que ceci est une fenêtre ouverte sur l'âme de cet homme. Il tue par compulsion, bien qu'il essaie de se le cacher. C'est ce qui le pousse, c'est dans son sang.
Oui, peut-être, ou alors il aime seulement attirer l'attention.
Nuit blanche, couleur 3.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
L'année 1969 est considérée comme celle qui marque la fin d'une époque pleine d'optimisme et d'insouciance. Après une décennie caractérisée par l'espoir et le progrès social, l'arrêt semble brutal. Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy ont été assassinés. Le 6 décembre 1969, le festival d'Altamont, qui se veut être le successeur de Woodstock, vire au cauchemar quand le service d'ordre, assuré par les Hells Angels, se retourne contre les spectateurs. L'un des festivaliers, Meredith Hunter, meurt poignardé. Le mouvement hippie expire son dernier souffle, en même temps que l'étudiant afro-américain de 18 ans. Pire encore, des tueurs d'un nouveau genre, froids, cruels et exécutant des inconnus sans motif apparent, plongent tout l'État de Californie dans la peur et l'angoisse. À Los Angeles, la terreur est palpable depuis que Sharon Tate, l'épouse enceinte de Roman Polanski, est assassinée le 9 août 1969 par les adeptes de Charles Manson. Dans la région de la baie de San Francisco, c'est le tueur du Zodiac qui sème la terreur parmi la population. Une sorte de bête humaine qui ne cherche pas à se faire aimer, mais à se faire craindre, et tout est bon pour y arriver. Les forces de l'ordre sont mobilisées bien au-delà de leur capacité pour surveiller les bus scolaires, enquêter sur des alertes à la bombe. Elles redoublent d'efforts pour mettre la main sur ce tueur qui s'amuse avec eux, un peu comme un chat jouant avec sa proie. Dans cette traque sans relâche, il y a de nombreuses vies en jeu, mais il y a aussi un honneur à défendre. Il en va de la crédibilité des enquêteurs, inspecteurs et policiers.
Il faut qu'on rende public la menace sur les cars.
Et on sera baisé.
On est déjà baisé. On est passé d'homicide banal de chauffeur de taxi à tueur fou visant des écoliers.
J'attends qu'on fasse un film sur moi. Qui va jouer mon rôle? Maintenant, je maîtrise complètement la situation.
Le meurtre de Paul Stein est le dernier attribué de façon formelle au tueur du Zodiac. Et pourtant, l'histoire ne fait que commencer. Le mystérieux malfaiteur va continuer à inonder la rédaction du San Francisco Chronicle de ses courriers, hantant les colonnes du quotidien et l'esprit des Californiens pendant de très longues années. Comment est-il possible que le Zodiac ne se soit jamais fait prendre? De quels autres crimes est-il responsable? Et surtout, qui est-il? C'est ce que nous vous raconterons dans le prochain épisode de Nuit Blanche. Nuit Blanche est un podcast produit par Couleur 3, publié chaque soir de pleine lune. À la réalisation de cet épisode, un maniaque du son, Franck Pourpris, et au micro, deux éternels adolescents, Anne Flamand et Michael Marquet. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons la suite et la fin de l'histoire du tueur du Zodiac. Un épisode haletant à découvrir dans un mois, le vendredi 26 février. À bientôt pour une nouvelle nuit blanche. Une nuit blanche à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.
C'était même en tête. J'ai mal à la tête. Je suis très malade. Je vais les tuer.
Nuit blanche, couleur 3.